Philippe Le Guillou, vous êtes né au Fou, dans le Finistère Nord, un paysage qui fait écho dans tout le reste de vos romans.
Oui, c'est un tout petit village au fond de la rade de Brest. Le village d'ailleurs porte le nom de la rivière, Fou, Arfau en breton. Et la singularité de ce village, c'est qu'il est situé entre la mer et puis tout à côté d'ailleurs une très belle forêt. Et c'est dans cette forêt en particulier qu'étaient pris tous les troncs qui allaient servir pour le bois des bateaux de la marine royale à Brest, puisque Brest est à une trentaine de kilomètres du Fou. Et tout à côté, il y a deux églises, d'ailleurs très vite, qui ont compté pour moi. C'est l'église d'ailleurs paroissiale du Fou. Et à 5-6 kilomètres de là, à l'entrée de la forêt du Cranou, un très joli petit village qui s'appelle Rumingol, dans lequel il y a en particulier une très très belle statue de la Vierge. C'est donc le sanctuaire de Notre-Dame de Rumingol, un vieux sanctuaire marial. Et je crois qu'à la fois, quand j'évoque ce paysage, vous avez à la fois effectivement mon attirance pour un paysage entre la forêt et la mer, la présence décisive du christianisme pour moi, et aussi la présence déjà de l'art, parce que tout enfant, même si je ne connaissais encore strictement rien de l'art baroque, de l'Italie, de la contre-réforme, etc., à travers ces figures et à travers le travail de ces artistes, j'ai découvert quelque chose, une forme d'art, un courant artistique qui, déjà dès l'enfance, me fascinait.
Dès l'enfance, vous êtes fasciné par ce paysage et petit à petit, vous allez écrire assez vite. Votre premier roman, vous avez quel âge ?
J'ai 24 ans quand je publie mon premier roman, mais le premier roman que je publie n'est pas évidemment le premier texte que j'ai écrit. Je dirais que j'ai commencé à écrire vers 17 ans. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai un peu décidé de l'orientation en quelque sorte de ma vie ensuite. C'est-à-dire que dès l'adolescence, j'ai beaucoup lu et en même temps j'ai aussi déjà commencé à écrire et j'ai beaucoup écrit.
Dans vos romans, il y a souvent la Bretagne, le Finistère et des histoires. D'où les prenez-vous ces histoires ? Je pense par exemple à un roman qui s'appelle « L'inventaire du vitrail », je pense à « Fleur de tempête »
oui,
ou encore « Le bateau
brume ». D'abord je crois que finalement, et moi je crois beaucoup à cette caractéristique ou à cette qualité fondamentale d'un romancier, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Il y a un respect que l'on doit à un lecteur, qui est le premier respect que l'on doit à ce lecteur, c'est de lui raconter une histoire, c'est-à-dire de le dépayser, de le transporter dans un univers. Alors, d'où me viennent les histoires de façon très, très curieuse. Parfois ça peut être, par exemple, Fleur de tempête, c'est le portrait d'une amie très chère que j'ai perdue, donc c'est une sorte d'hommage à cette jeune femme foudroyée par la maladie. En même temps, l'inventaire du vitrail, puisqu'on parlait du Fou tout à l'heure, c'est un vitrail représentant le combat d'un dragon et d'un saint qui se situe dans l'église de mon village natal au Fou. Le pont des anges, le dernier du livre, c'est le pont Saint-Ange à Rome. Donc il y a comme ça souvent d'ailleurs un lieu ou un objet, qui peut d'ailleurs aussi parfois être lié à l'univers sacré, qui m'inspire. Donc voyez-vous, à la fois ça peut être des histoires qui sont très loin de moi, en apparence, comme des histoires qui appartiennent beaucoup plus à ma sphère privée ou à ma sphère intime.
Parmi aussi quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup marqué, une personne sur laquelle vous avez écrit, Julien Gracq.
Julien Gracq, si vous voulez, je le lis quand je suis élève de terminale. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Je lis, je le découvre et j'ai une sorte d'attirance. Et je vais le lire beaucoup, je vais même écrire un certain nombre de choses et je ne le rencontre toujours pas parce que l'image qui entoure à ce moment-là et la réputation qui entoure Julien Gracq, c'est quelqu'un d'éminemment lointain, d'éminemment secret, vivant,
hein.
vivant un petit peu une vie d'ermite. Et quand je vais commencer justement à écrire, à publier dans les années 80, je vais lui envoyer un de mes livres. Il va répondre très, très aimablement et nous allons commencer à échanger une correspondance. Et quand en 1991, je publie à la table ronde un petit livre qui est un portrait de Gracq, il va me dire très simplement, écoutez, je crois que le moment est venu de se rencontrer. Et donc, je crois que, voyez-vous, de 1992 à sa mort en 2007, c'est-à-dire pendant plus de 15 ans, j'ai été un visiteur de Julien Gracq, c'est-à-dire que je suis allé le voir. Alors, il s'était retiré dans son village natal de Saint-Florent-le-Vieil au bord de la Loire. Je suis allé plusieurs fois et donc, si vous voulez, c'est en même temps une histoire très belle parce qu'à la fois, à l'origine, il y a une fascination littéraire pour cet homme, pour cet écrivain. Et à cette fascination littéraire, à cette admiration, s'est ajouté ensuite quelque chose qui a été de l'ordre d'un compagnonnage. Et en même temps, il y avait une extrême familiarité. C'est en même temps une histoire littéraire qui est assez belle, parce qu'à la fois, il y a une admiration, puis une rencontre. Et je crois que, pour ça que j'aime beaucoup cette thématique de la rencontre, qui est très chrétienne d'ailleurs aussi, qui fait que finalement, c'est, beaucoup disent aujourd'hui, mais finalement, il suffit de lire un livre, il suffit d'admirer un auteur, et il n'est pas très inutile de le rencontrer, il n'est pas très utile de le voir. Moi, je trouve que c'est très utile, au contraire, et qu'il y a quelque chose d'un domaine d'une incarnation. Il n'est pas inintéressant de rencontrer celui qui est l'homme, l'incarnation humaine, chez qui tout cela a pris source et tout a pris racine. Et c'est ce que j'ai vécu.
La fascination littéraire que Julien Gracq a exercée sur vous, vous pourriez en donner deux ou trois points ?
Et quelque chose qui est extrêmement important pour moi, si vous voulez, c'est que je trouve que Julien Gracq est un prosateur exceptionnel. Et moi, je crois que véritablement, il y a un travail, si vous voulez, un peu d'orfèvrerie du style, d'orfèvrerie de l'écriture. L'écrivain doit travailler l'écriture. Bon, certes, il met en scène, il raconte, il déploie des histoires, mais le style, l'écriture, doit être aussi l'objet de sa préoccupation, de son attention. Pour moi, et donc, Gracq, si vous voulez, pour moi, c'est un styliste merveilleux. Mais j'aimais aussi chez lui cette distance, si vous voulez, ce retrait qui fait que finalement, certes, l'écrivain regarde son époque, l'écrivain est engagé dans son temps, mais en même temps, il cultive une sorte de distance, de retrait. Il n'est pas dans le tohu-bohu des événements, il n'est pas dans le tohu-bohu du monde, il n'est pas immergé comme ça dans l'actualité.
Alors, Philippe Le Guillou, en 1987, vous publiez un roman qui s'appelle « Le Dieu noir », et 25 ans après, vous publiez un autre roman, « Le pont des anges ». Il y a une suite entre les deux, je crois.
C'est une continuation, et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'on parlait de Gracq, c'est un roman qu'il avait beaucoup aimé, « Le Dieu noir ». D'ailleurs, il en parlait souvent, chaque fois que je le rencontrais, d'ailleurs, il se trompait sur le titre, il l'appelait « Le pape noir », puisque j'imaginais un pape d'origine zaïroise, le premier pape africain au début du XXIe siècle. Évidemment, quand il parlait du pape noir au lieu du Dieu noir, jamais je ne le corrigeais. Et c'est vrai que je pensais, si vous voulez, après avoir écrit un pape, décrit un conclave, raconté un pontificat imaginaire dans le Dieu noir, jamais je n'aurais imaginé écrire un deuxième roman qui fût consacré à un pape. Et c'est une histoire assez belle. J'étais à Rennes, je suis entré chez un bouquiniste, j'ai trouvé un service de presse de mon Dieu noir, et j'ai acheté ce livre. Et dans un moment d'insomnie, le soir, alors que j'avais autour de moi plein d'ouvrages, d'ailleurs dans une très belle bibliothèque, et j'ai repris ce Dieu noir, ce que je ne fais jamais parce que je ne relis jamais mes livres. Et le fait de relire, si vous voulez, comme ça le lendemain, alors que j'étais préoccupé ou occupé par toute autre chose, une espèce d'idée comme ça me hantait. Et c'est là que m'est venue l'idée, que je n'aurais jamais pu imaginer avant d'avoir trouvé ce Dieu noir chez ce bouquiniste, de donner une suite à mon roman. Et d'imaginer non plus le pontificat d'un pape africain, mais d'imaginer le pontificat cette fois-ci d'un pape irlandais. Alors on avait Miltiade II dans le Dieu noir, on a Clément XV dans le Pont des Anges, et c'est comme cela, si vous voulez, que ça s'est fait. Et il y a 2 ans, je suis revenu à Rome, et venant à Rome, si vous voulez, alors que je connaissais quand même assez bien cette ville, j'ai vu des lieux nouveaux qui en même temps ont hanté mon... Par exemple, je ne connaissais pas aussi bien que je ne pensais le Pont Saint-Ange. De la même manière, je ne m'étais jamais promené sur les quais du Tibre tout en bas, comme je l'ai fait à cette occasion. Et en même temps, c'est comme ça, si vous voulez, dans une sorte de promenade, dans une sorte de déambulation romaine, que le roman s'est mis en place et que j'ai pu déployer cette histoire avec ce pape. Parce que c'est ça, finalement, pour moi, un roman. C'est une histoire, on l'a dit, c'est une langue, mais ce sont aussi des personnages. Là, j'ai inventé 3 personnages, qu'il y a un peintre. J'ai vu, d'ailleurs, en me promenant, un Christ crucifié qui avait été dessiné, qui avait été peint sur la paroi. Et donc, j'ai imaginé le peintre, si vous voulez, qui pouvait être l'auteur de ce Christ. Et de la même façon, j'ai imaginé aussi une sorte de dramaturge, un poète qui est couché, qui est immobilisé par une mystérieuse maladie, auquel d'ailleurs le pape, enfin le cardinal irlandais, le futur pape Clément XV, va rendre visite. Donc le roman s'organise en quelque sorte autour de ces 3 personnages, un pape, un peintre, un poète, mais en même temps je pense qu'il y a 4 personnages, parce qu'évidemment Rome est peut-être d'ailleurs le premier personnage du Pont des Anges.
Alors Philippe Le Guillou, vous avez été professeur, vous avez fait partie aussi du jury d'agrégation pour les lettres.
Oui.
Quand vous êtes en face de jeunes auteurs, qu'est-ce que vous leur dites ?
Eh bien écoutez, je leur dis d'abord d'écouter ce qu'ils ont envie de faire et de dire, et pas du tout d'essayer de plaire à l'époque. Je leur dis qu'il faut travailler, il n'y a rien sans rigueur, sans discipline et sans travail. Et je dis finalement qu'il y a quelque chose, si vous voulez, qui est mystérieusement un peu de l'ordre d'une vocation. C'est un mélange un peu bizarre, si vous voulez, avec à la fois beaucoup d'imagination, de fertilité, de virtuosité. Donc en même temps, il y a aussi ce travail de rigueur, de documentation. Mais quand on est emporté, je crois, par la passion d'écrire, par la passion de communiquer quelque chose, de faire partager quelque chose, parce qu'il y a aussi dans la littérature quelque chose qui là aussi est de l'ordre un petit peu d'une communion. Et bien à ce moment-là, je crois que finalement les épreuves, les difficultés, le travail n'existent plus et tout cela est très vite dépassé, surmonté.
Je voudrais encore vous poser une question, Philippe Le Guillou. Julien Gracq n'était pas un catholique.
Non, du tout. Il parlait de façon très belle du Christ. Et en particulier, le moment de la vie du Christ était ce temps que nous venons d'ailleurs quasiment de quitter, c'est-à-dire entre Pâques et l'Ascension. C'est-à-dire le Christ des pèlerins d'Emmaüs, le Christ que l'on croise comme ça sur la route. Et il en parlait de façon très belle.